Bonjour. Voilà, donc très concrètement, on va commencer donc avec un peu de retard, mais ça, c'est toujours habituel sur la première intervention donc de la matinée sur cette évolution du modèle de financement pour la psychiatrie et la santé mentale, avec Monsieur Thierry Kurtz, donc chef du bureau à la Direction générale de l'offre de soins en charge sur les prises en charge en santé mentale. Monsieur Thierry Kurtz.
En général de l'offre de soins, je crois que vous m'entendez là, c'est mieux. Alors, le rapport charge et produit de la CNAM place les pathologies psychiatriques au deuxième rang des dépenses de l'assurance maladie, hein, puisqu'aujourd'hui on va parler finance, avec 21,3 milliards d'euros, soit 15% des dépenses. Et parmi ces dépenses, le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie représentait 8,8 milliards d'euros en 2016, dont 8 milliards d'euros alloués au titre de la dotation annuelle de fonctionnement, la DAF, et 0,8 au titre des prestations OQN. Alors que les champs MCO, SSR, HAD ont mené ou sont en train de mener des réformes de leur modèle de financement, en partie fondée sur l'activité, le champ de la psychiatrie demeure encore principalement financé pour le secteur public et privé à but non lucratif par une enveloppe globale, par la DAF. Donc, les ARS allouent une dotation annuelle à chaque établissement pour mettre en œuvre le contrat d'objectifs et de moyens et l'établissement gère ensuite cette enveloppe sur la base de son projet médical dans le cadre de ses obligations contractuelles. Les limites de ce modèle, soulignées depuis de nombreuses années, ont conduit à envisager son évolution, avec notamment les travaux de valorisation de l'activité en psychiatrie, la VAP. Et il paraît important de revenir brièvement, dans un premier temps, sur les raisons qui ont conduit à interrompre ces travaux, avant de présenter dans un second temps, les travaux actuels et envisager des pistes d'évolution. Les premières réflexions ont été menées dans les années 90 pour envisager une évolution du modèle de financement de la psychiatrie selon plusieurs hypothèses initiales de financement à la trajectoire de prise en charge ou de financement à l'acte. Et ces réflexions ont conduit à la mise en place expérimental initialement du recueil d'activités RIM-P au début des années 2000, puis à sa généralisation en 2007. Et le ministère a engagé des travaux en 2006, en lien à l'époque avec les acteurs de la psychiatrie, sur la base d'un modèle en quatre compartiments. Un compartiment activité avait pour objectif donc un financement T2A en fonction de l'activité à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Un deuxième compartiment regroupant des missions d'intérêt général était inspiré du modèle T2A en MCO. Un compartiment géopopulationnel avait pour objectif d'assurer une certaine équité territoriale de financement rattachant une population de référence à un territoire géographique à déterminer. La prise en compte de facteurs socio-démographiques, facteurs environnementaux de type niveau de ressources, isolement social, avait été envisagée, ainsi que des caractéristiques géographiques des territoires, étendue, accessibilité, densité de population, à même d'influer sur l'activité des équipes de psychiatrie. Et un compartiment médicaments coûteux, donc quatrième compartiment, était inspiré des molécules onéreuses en MCO. Alors, ce quatrième compartiment a été assez rapidement abandonné, le coût des psychotropes et neuroleptiques étant sensiblement inférieur au coût des molécules onéreuses hein, qui avaient cours en MCO. Le compartiment géopopulationnel s'est heurté à l'insuffisance de données épidémiologiques fiables. Le lien entre les pathologies psychiatriques et les données sociodémographiques demeurait insuffisamment documenté, la pathologie psychiatrique étant différente d'ailleurs de la souffrance psychique, et ce compartiment nécessitait d'interroger les différentes missions des établissements autorisés en psychiatrie, notamment dans les domaines de la prévention, des soins, de l'urgence, de l'insertion, des relations avec les acteurs sociaux et médico-sociaux, ces missions étant insuffisamment définies. Le compartiment mission d'intérêt général s'est heurté à un constat d'hétérogénéité des pratiques et au défaut de cahier des charges de ces missions. Enfin, le compartiment activité nécessitait de disposer de données fiables, exploitables, ce qui aurait supposé la généralisation du RIMP depuis plusieurs années, et il demeurait par ailleurs difficile de modéliser un financement à l'activité en psychiatrie en l'absence de données de coûts comparables d'un établissement à l'autre, alors même que l'activité est hétérogène, ne repose pas sur des référentiels de pratiques professionnelles partagées. On était dans une configuration assez différente hein, des travaux T2A sur la chirurgie qui étaient engagés parallèlement. Alors, au total, les travaux sur la VAP se sont interrompus assez rapidement en 2008 par défaut de données fiables sur l'activité et les coûts, mais aussi du fait de la spécificité, de l'hétérogénéité des pratiques et du manque de définition réglementaire sur l'activité de psychiatrie ne permettant pas d'asseoir un modèle sur un périmètre d'activité, des conditions de fonctionnement applicables à tous et permettant des comparaisons pertinentes entre les établissements. Il fallait également prendre en compte l'élargissement des pathologies prises en charge depuis la création du secteur, la diversification des acteurs intervenant dans la prise en charge, l'augmentation du nombre des établissements non sectorisés, le rôle des médecins généralistes, dont je le rappelle, un quart des consultations est en lien avec un trouble psychique, la place des acteurs médico-sociaux dans la prise en charge du handicap psychique dans la suite de la loi du 11 février 2005, donc la nécessité de redéfinir la place de ces différents acteurs dans le cadre d'une offre de soins graduée et d'un accompagnement social et médico-social. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Depuis l'interruption des travaux sur la VAP, plusieurs avancées significatives sont intervenues. Pour autant, une part des obstacles rencontrés lors des travaux sur la VAP reste aujourd'hui d'actualité. Le RIMP s'est développé. En 2017, 95% des établissements autorisés en psychiatrie alimentent le RIMP, ce qui en fait un recueil relativement fiable, à défaut d'être complètement exhaustif, et avec un recul et une solidité désormais de plusieurs années. Il y a un groupe technique de l'ATI est d'ailleurs consacré à l'amélioration continue de ce recueil. À partir de ces données, des travaux ont été conduits par l'ATI pour mesurer les coûts en psychiatrie. Ils vous seront d'ailleurs présentés dans la suite de la journée. Les enquêtes de coûts réalisées ont notamment permis de travailler à l'amélioration du retraitement comptable des établissements. La difficulté persiste toutefois de l'absence de référentiel d'activité en psychiatrie et de l'hétérogénéité des pratiques. Des avancées récentes doivent être soulignées. Le nouveau cadre législatif introduit par la loi du 26 janvier 2016 a permis de confirmer au sein de la psychiatrie la mission de psychiatrie de secteur. Le décret du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale, qui a été élaboré en concertation avec les acteurs de la psychiatrie, a précisé les priorités du diagnostic territorial et du projet, hein, concernant notamment le parcours du patient, l'offre de soins, sa gradation, son articulation avec l'accompagnement social et médico-social. Par ailleurs, les travaux de la HAS et de l'ANAP, réalisés à la demande du ministère, contribuent à harmoniser les pratiques professionnelles et les organisations. La HAS a ainsi élaboré ou est en cours d'élaboration de recommandations sur la gestion de la violence, la prise en charge des troubles dépressifs. Également, le sujet très important qui a été évoqué par Christian Muller, du recours à l'isolement et à la contention. L'ANAP, dans le champ des organisations, a travaillé de son côté donc sur les interventions, notamment à domicile, et l'organisation des parcours en psychiatrie et santé mentale. Donc on a aujourd'hui des outils plus nombreux qu'à l'époque. La psychiatrie dispose aussi, et Christian Müller l'a rappelé, d'une instance nationale de concertation, un comité de pilotage de la psychiatrie, donc créé fin 2016, co-présidé par le docteur Yvan Elimi et par la directrice générale de l'offre de soins, et qui permet d'échanger et concerter avec les acteurs de la psychiatrie sur les questions de référentiel d'activité qui manque aujourd'hui pour poursuivre correctement un modèle, et sur les sujets également de financement. Alors, entre autres questions qui sont traitées au Copil psychiatrie, de la démographie médicale et de l'attractivité, de la mise en place d'une fonction d'observatoire des soins sans consentement, des parcours de soins, et des référents rapporteurs ont été identifiés pour chaque thématique de travail, permettant désormais d'envisager l'élaboration de référentiels d'activité et d'organisation en ambulatoire, en hospitalisation, alors tout en laissant sa place à l'initiative des acteurs. Et le sujet du financement fait partie intégrante des travaux du COPIL Psychiatrie. À ce stade, les travaux menés par la DGOS et les ARS sur le financement de la psychiatrie se concentre sur la réduction des inégalités territoriales. La DAF par habitant variait en 2015 selon les régions de 107 euros à 258 euros. Et la dépense d'assurance maladie par habitant, qui englobe la DAF, l'OQN et les honoraires libéraux, de 125 euros à 180 euros. De même, les taux de recours à l'hospitalisation à temps plein variaient en France métropolitaine entre 161 et 279 journées pour 1000 habitants, avec un lien observé assez logique entre le taux de recours à l'hospitalisation et la capacité en lit. Les durées moyennes d'hospitalisation, le recours aux alternatives à l'hospitalisation, temps partiel, traduisent également des disparités dans les pratiques et les modalités d'organisation de l'offre. Alors, différentes hypothèses ont été interrogées comme facteurs explicatifs de ces disparités, au moins en partie, notamment la démographie médicale et soignante, l'implantation d'établissements et de services médico-sociaux, mais l'analyse doit être poursuivie. Alors, la DGOS a réparti les mesures de gel budgétaire en 2014 selon la DAF par habitant, donc sur un critère assez sommaire. Puis les mesures d'économie en 2015 ont été réparties suivant un score composé de 4 indicateurs. La durée moyenne d'hospitalisation par patient en temps plein, qui était modulée par son évolution. Si l'évolution était positive, il y avait une prise en compte dans les calculs de modulation sur les 5 dernières années. Le taux de recours standardisé à l'hospitalisation à temps plein, le taux d'hospitalisation à temps partiel de jour, les dépenses d'assurance maladie par habitant intégrant les données CNAM pour la psychiatrie libérale. En 2015 et en 2016, un prorata des bases a été appliqué pour la répartition des économies, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau national, un critère de répartition simple et assez sommaire. Et dans la pratique, ce sont les ARS qui ont appliqué des modulations intra-régionales. Si bien qu'à la demande des acteurs, en 2017, dans le cadre des travaux du COPIL, psychiatrie, un état des lieux des modulations intra-régionales a été réalisé, et des préconisations sur des principes de modulation ont été concertées, élaborées et transmises aux ARS. Alors, l'état des lieux a montré que 9 régions, les nouvelles régions, réalisaient des modulations pour répartir les mesures d'économie ou les mesures nouvelles sur la base de méthodologies partagées en règle générale avec les acteurs locaux. Alors, les objectifs visés par ces modulations paraissaient communs à l'ensemble des régions, c'est-à-dire une redistribution des ressources au sein de la région, des territoires ou des établissements considérés comme surdotés vers les établissements considérés comme sous-dotés. avec également parallèlement un objectif d'évolution de l'offre, c'est-à-dire qu'était favorisé le développement des prises en charge ambulatoires et pénalisé les recours plus importants à l'hospitalisation à temps plein dans les modèles. Les critères utilisés par la plupart des régions étaient la file active, l'activité, la population, le territoire couvert par l'établissement sectorisé, selon des modalités qui différaient toutefois assez sensiblement d'une région à l'autre, hein, sur la pondération des critères, la valorisation utilisée pour traduire les prises en charge et la décliner donc en mesure de répartition, de modulation, et également la sophistication des modèles utilisés. Alors, par ailleurs, la mission Olivier Véran a permis de disposer d'un état des lieux, des avancées et des attentes dans ce champ. Les propositions de cette mission vous seront présentées au cours de la journée. On peut d'ores et déjà citer l'une des conclusions du rapport. Je cite, « Bien que le système d'information ait gagné en exhaustivité, la difficulté qui demeure à faire émerger une approche standardisée des prises en charge dans le domaine de la psychiatrie ne permet pas d'envisager une réforme globale du modèle de financement en vigueur. » Je ferme les guillemets. Dans les pistes envisagées, la mission préconise qu'une partie de la dotation soit modulée en fonction de la population et des soins réalisés, donc avec les deux critères, géopopulationnel et activité. Et la mission rappelle également la nécessité au préalable de pouvoir objectiver le taux de recours et le taux de non-recours aux soins, donc les besoins sur les territoires, et d'identifier des typologies de prise en charge partagées à définir, en prenant en compte notamment des objectifs de développement de l'ambulatoire, également des objectifs de développement des offres non présentes sur l'ensemble de territoires, comme la réhabilitation psychosociale. Alors, cet état des lieux et ses perspectives vont être discutés au comité de pilotage de la psychiatrie de lundi prochain, qui aura lieu sous la forme d'un séminaire d'une journée. Alors, les perspectives aujourd'hui, donc je ne vais pas les dévoiler puisqu'elles feront l'objet d'une discussion approfondie lundi. Néanmoins, on est sur des questionnements qui doivent être partagés, selon nous, par les acteurs. D'abord, sur la poursuite de l'objectif de réduction des inégalités territoriales dans l'allocation des ressources. La question de la mise en œuvre de modulation interrégionale sera notamment abordé lors du prochain comité de pilotage, donc de lundi. Par ailleurs, le questionnement qui va apparaître est celui de la poursuite de la réflexion aujourd'hui, puisqu'on a un moment quand même assez pivot, un peu de l'évolution des choses, une réflexion sur les objectifs auquel doit répondre le modèle de financement, qui nous semble un préalable. Par exemple, la qualité des prises en charge, basée sur la description des pratiques, la responsabilité géopopulationnelle sur le secteur, la prise en compte des missions de soins, prise en charge de l'urgence, missions de prévention, de coordination avec les autres acteurs de la prise en charge, les libéraux, les acteurs sociaux, médico-sociaux, la prise en charge de populations spécifiques, des missions spécifiques, addiction, psychotrauma, personnes détenues, précarité, la recherche. Ce sont autant de pistes pour nous, et on en discutera lundi, à approfondir, réaliser des cahiers des charges, décrire. Et ces perspectives ensuite feront l'objet des travaux sur le financement qui seront menés dans le cadre du COPIL avec l'appui des travaux de la TIH qui seront au service de cette politique concertée avec l'ensemble des acteurs de la psychiatrie. Donc on aura davantage d'éléments d'orientation à l'issue du séminaire donc du COPIL Psychiatrie de lundi. Et donc, je m'arrêterai là. Je vous remercie.